Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, François Colombet, il vient d'écrire un livre tout à fait intéressant, donc Les Vignobles Mythiques, qui est consacré, livre, qui est, ouvrage qui est consacré à ses plus grands vins, ses plus grands crus, ses plus grands terroirs, tant en France, bien sûr, que dans l'Europe et dans le reste du monde. Un mot pour vous dire que cet ouvrage est édité par une maison d'édition qui s'appelle la maison Belin, qui a une particularité, c'est que c'est une des plus anciennes, peut-être la plus ancienne, je ne sais pas, il faudrait faire des recherches, en tout cas, à mon avis, l'une des certainement plus anciennes maisons d'édition dans le monde. Elle date quand même de 1777, c'est-à-dire qu'elle a été créée à la fin du XVIIIe siècle par la famille Belin, et que c'est toujours la famille Belin qui est à la tête de cette maison. C'est une maison qui est une maison familiale, indépendante, qui est spécialisée dans les spécialisée dans les livres des programmes scolaires, qui est connue donc des lecteurs des lycées et collèges, mais qui est évidemment édite aussi d'autres ouvrages. La preuve, celui de François Colombet, qui rentre dans une sorte de collection sur les lieux mythiques. Il y a dans le monde des lieux mythiques, comme il y a un peu des gens mythiques, il y en a un qui vient de mourir il y a deux jours, comme il y a des vins mythiques. Alors avant qu'on passe au contenu de ce bel ouvrage, qui est riche de très jolies photos, de belles cartes, on va y revenir, j'aimerais que François Colombet, qui est peu connu du public bordelais, puisque vous n'êtes pas très souvent venu chez Mola, nous dise un mot. Finalement, qui êtes-vous ? On peut vous dire ça comme ça ?
Oui, c'est... Très, très simplement, je vais vous le dire. Je suis pas tombé dans un tonneau à la naissance. C'est-à-dire, moi, le monde du vin, c'était quelque chose d'inconnu pour moi. Si ce n'est quelques souvenirs, lorsque j'accompagnais mon grand-père, qui était en région parisienne et qui avait un commerce de Migros, ce Migros, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit. Et je l'accompagnais donc dans l'odeur de la torréfaction de café, mais également... on descendait de temps à autre dans la cave de la maison, où étaient stockés les vins fins, et puis surtout les entrepôts où il y avait les barriques, les tonneaux, etc. Donc c'est cette odeur, cette odeur qui a bercé mon enfance, une odeur de vin éventé, de bois imprégné de vin, une odeur un petit peu d'interdit, puisqu'on n'avait pas le droit de toucher à ce vin, etc. Donc c'était ma Madeleine de Proust, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez extraordinaire de connaître ça. Voilà. Et ensuite, donc, mes grands-parents se sont installés en Bourgogne, ils sont installés dans un petit village qui s'appelle Vermenton, tout à côté de Vézelay. Aujourd'hui, c'est connu non pas seulement par la basilique de la Madeleine, mais également par un grand vin qui s'appelle le Bourgogne-Vézelay, qui a été réinitié il y a une dizaine d'années. Donc, c'est un nouveau vin, un chardonnay. Et puis, donc, Vermenton, sur les bords de la Cure, c'est en quelque sorte l'image de ce qu'a été donc, la France viticole de la fin du 19e, début du 20e, c'est-à-dire que Vermenton, des coteaux étaient couverts de vignes, et puis malheureusement le phylloxéra est arrivé, et il ne reste plus que des coteaux totalement dépouillés, des friches. Maintenant, on arpente les friches autour de Vermenton. Heureusement, donc nous allions de temps à autre dans les quelques îlots qui avaient subsisté, c'est-à-dire que nous allions donc chercher le vin donc, et le ratafia à Saint-Brie-le-Vineux, donc le fameux Sauvignon de Saint-Brie, le seul Sauvignon de la Bourgogne, je connaissais. Et puis, évidemment, nous allions donc à Irancy, connu pour ses cerises, mais également pour son vin. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'Irancy, mais c'est un vin extraordinaire. C'est un vin dont 6% est fait d'un cépage qui date de l'époque romaine. D'ailleurs, le cépage s'appelle le César. Donc, incroyable, c'est-à-dire que c'est un cépage
mythique.
C'est vraiment un cépage mythique, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis, de temps à autre, évidemment, on allait... grand lieu de ce coin de la Bourgogne, de Lyon, on allait à Chablis, mais ça c'était déjà, donc vous allez voir, vous allez découvrir dans le livre les grands crus mythiques de Chablis. Jamais j'aurais pensé que je pourrais aller au-delà, c'est-à-dire me rendre dans des endroits qui étaient pour moi le paradis. C'était la côte de Beaune, la côte de Nuit, Nuit Saint-Georges, Jouy-Chambertin, etc. Pour moi, c'était quelque chose, c'était le paradis. Voilà. Alors, donc,
c'est toujours.
Ça l'est toujours, un petit peu plus maintenant. Et ce qui fait que, j'essaye de venir rapidement à la réalité de ce livre. La jeunesse, c'était plutôt alcool et bière. Et j'ai redécouvert le vin d'une manière assez accidentelle, puisque je faisais à l'époque des reportages avec un journaliste de Gamma Magazine. Et il a fondé une société qui s'appelait à l'époque des packagers. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est-à-dire c'est des gens qui faisaient des livres pour des éditeurs. Donc, il fournissait donc tout pour un éditeur. Et il a eu un contrat avec... il a eu un contrat avec un distributeur de livres, un diffuseur de livres aux États-Unis, sur un sujet qui était incroyable. C'était, on lui a demandé de faire un livre en anglais sur les grands vins du monde. Bah, bon, donc il m'a dit, écoute, voilà, tu vas faire le livre, tu vas faire le livre avec moi. Moi, j'apporte les photos et toi, tu apportes le texte. Je lui ai dit, attends, je ne connais rien au vin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, bah, écoute, tu écriras en apprenant, voilà, ou tu apprendras en écrivant. Je sais pas quelle est la bonne formule. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ce vin a eu un succès. Malheureusement, j'avais pas de droit d'auteur, c'est dommage, c'était un forfait. Ce vin a eu un succès incroyable. Il a été préfacé par Robert Mondavi. Donc, à l'époque où la Californie traversait une période noire, puisque c'était à la fin des années 80, puisque un siècle après nous, bon, le vignoble californien
va y venir,
a été...
Va y venir.
Non, mais Livia a été détruit entièrement par le phylloxéra.
Oui,
c'est incroyable, voilà. Ensuite, donc rapidement, ça a été... Donc on a adapté ces bouquins-là pour le marché français. Donc, c'est une formule un petit peu marketing, mais en fait, c'était le cas. Et avec une préface du GG National, Gérard Depardieu, qui a écrit la préface, avec son maître de chai, Dominique Polo. Donc là, on arrive dans les vins de Loire et d'Anjou. Ensuite, ça a été donc un succès que Mola a dû connaître, puisqu'on a fait donc les grands petits vins de France, une préface de Jean Carmé, qui a eu à peu près 4 éditions différentes et des ventes qui ont été, l'éditeur et l'édition Atier, c'était à peu près entre 250 000 et 300 000 ventes. C'était en pile au moment de Noël et c'était un grand succès. Après, donc, ça a été les guides des grands petits vins de France. Maintenant, préfacé par Alain Favreau, qui est le goûteur de Nicolas. Et ensuite, on est passé de l'écrit à Internet. Et là, je suis rédacteur en chef d'un site qui s'appelle dicoduvin.com et qui est le premier site de référence sur le vin en France. Voilà. Donc, j'ai eu le bonheur de croiser ma route avec Belin. Et je dois vous dire, pour ajouter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'année où nous avons accouché de ce livre, ça a été un véritable bonheur, puisque l'éditrice était formidable. Nous avons fait un travail de collaboration très étroite avec l'iconographe. Vous allez voir, l'iconographie est absolument merveilleuse dans ce bouquin-là, très recherchée, etc. Et puis, surtout, la cartographie, puisque Belin est un éditeur, vous le soulignez tout à l'heure, est un éditeur scolaire. Et les cartes sont absolument extraordinaires, très claires, très pédagogiques. C'est le but de la maison. Et vraiment, je dois vous dire, une année de bonheur absolu. Je ne savais pas qu'un éditeur pouvait être aussi convivial, aussi efficace et aussi performant sur un livre. Voilà.
Quand vous dites une année de bonheur, c'est une année de travail pour ce livre.
Une année de travail, c'est-à-dire une année de travail de réalisation.
Oui.
Le travail était fait en amont.
Oui, bien entendu. Alors, il était fait en amont sur ce thème.
Sur ce thème.
Bon.
Voilà.
Alors, il faut commencer par là. Le vrai titre du livre, n'est-ce pas, c'est les vignobles mythiques, pas forcément uniquement les vins. Mais enfin, tout de même, il faut se poser la question, elle est développée, la réponse est développée. Qu'est-ce que c'est qu'un vignoble mythique, finalement?
Alors, c'est répondre à la question suivante. C'est répondre pourquoi un auteur contemporain du siècle dernier est passé à la postérité. Pourquoi on lit encore tel auteur plutôt que tel autre? C'est exactement la même chose pour un vignoble mythique ou pour un cru mythique. Qu'est-ce qui fait que quelque chose, un auteur, un personnage, un vignoble, un cru, passe à la postérité pour devenir mythique? Au-delà de la postérité, c'est devenir un mythe. Ben, tout simplement, c'est pas seulement le talent ou c'est pas seulement les qualités intrinsèques du vignoble ou du terroir, mais c'est également l'image que le public peut s'en faire. C'est-à-dire que, on peut dire, c'est le vox populi. C'est-à-dire que vous interrogez quelqu'un dans la rue, vous lui dites qu'est-ce que c'est qu'un vignoble mythique, quels sont pour vous, qu'est-ce que vous voulez citer comme vignoble mythique. Eh bien, Tout à l'heure, on en parlait avant de venir ici, paraît-il que le nom qui revient le plus spontanément à la bouche des Français, c'est Château Margaux. Mais je pense que Ikem est sur la même longueur d'onde, Pétrus, Ozone, etc.
Romain Descomptes.
Alors, en Bourgogne...
Dom Pérignon.
Voilà, Dom Pérignon. Mais en Bourgogne, c'est plus complexe parce qu'on a affaire à une structure du vignoble qui est différente de celle du Bordelais. Le Bordelais, ce sont des vins de marque, ce sont des vins de château. En Bourgogne, ce sont des vins de terroir, ce sont des vins de climat. Donc, on peut citer Romain Desconti parce qu'il a une gloire universelle, mais beaucoup de gens ont du mal à situer ou à se dire, bon, on peut citer peut-être Chambertin, mais lequel ? Est-ce que c'est Claude Bèze ? Est-ce que La Tricière ? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. On parle de Corton, mais quel Corton, etc. Est-ce que c'est Corton Charlemagne, etc. C'est beaucoup plus compliqué. En Alsace, c'est, ils ont mis un blocage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de vin mythique connus du public en Alsace, parce que leur ligne de conduite a été de mettre en avant leur cépage. Donc, comment voulez-vous dire qu'un Riesling est mythique ? C'est un cépage mythique, mais par contre, c'est par le domaine. Mais on sait qu'il y a 51 crus mythiques en Alsace, mais en citer un, difficile pour un Français. Alors, si on passe à l'étranger, on sait pertinemment, c'est qu'on pourra peut-être citer en Allemagne éventuellement le Schloss Johannesberg, peut-être éventuellement, dans le Rheingau. Par contre, en Italie, on pourra situer peut-être le Piémont avec Barolo, Barbaresco, parce que c'est des noms qui sonnent bien à l'oreille. Dans le Piémont, en Toscane, évidemment le Chianti, Chianti Classico, etc. Mais est-ce qu'on parlera des super Toscans ?
Non, ils sont très récents.
Et oui, mais l'histoire, elle arrive rapidement maintenant avec les moyens médiatiques actuels. Voilà. Ah, donc, vous voyez. Donc, le côté mythique, c'est du vox populi. Ensuite, le côté mythique, c'est également le battage médiatique. C'est-à-dire que quand on sait, par exemple, que Bernard Arnault, je ne me trompe pas, a organisé le mariage de sa fille dans Ikem, bon, c'est du battage médiatique. Quand on sait, par exemple, que François Pinault, lui, a invité à son conseil d'administration du Château Latour, Francis Ford Coppola, ça c'est du battage médiatique. Coppola étant le grand, non, pas seulement le metteur en scène très connu, mais également le patron d'un des grands vignobles mythiques de Californie, qui est Inglenook, qui est donc en Napa Valley, et qui est peut-être le plus grand, je sais pas, Inglenook, un des plus grands.
Un des plus grands.
Un des plus grands, voilà. Un des plus grands, voilà. Donc, vous voyez,
donc au vin mythique s'attache quelquefois des personnages mythiques.
Alors, ça tâche des personnages mythiques, évidemment. C'est-à-dire que les personnages mythiques, ce sont eux, c'est le côté humain, qui fait que le vignoble devient passe du néant donc à
parce
la
que
connaissance
c'est
universelle.
C'est l'homme qui voit, voilà, le terroir et qui dit, sur ce terroir-là, on va faire du
voilà.
Bon vin.
Voilà. Alors, donc, il n'y a pas de mystère. Déjà, au départ, il faut qu'il y ait un terroir exceptionnel. Il faut qu'il y ait un vignoble exceptionnel. Et ce terroir exceptionnel sert d'écrin à faire des crus mythiques. Mais les crus mythiques, c'est-à-dire qu'on peut très très bien passer à côté. C'est un facteur humain. C'est-à-dire que ce sont des grands personnages. D'abord, citons en premier ceux qui ont sublimé les vins de Bourgogne, ce sont les moines de l'abbaye de Cîteaux. Donc, dès le XIe siècle, XIIe siècle, Bernard de Cîteaux qui a implanté effectivement le Claude Vougeot.
Lieu mythique, par excellence.
Alors, savez-vous qu'au Claude Vougeot, qui est 50 hectares donc entourés de clos, entourés de murs, 80 propriétaires actuellement, donc en 2013, mais savez-vous que alors que il ne devrait pas y avoir de hiérarchie, puisque c'est un grand cru, Claude Vougeot, c'est un grand cru, ben, y a une hiérarchie quand même, parce que la Bourgogne ne peut pas se renier. Donc, il y a, tout en haut, il y a les cuvées, la cuvée du pape. Ensuite, il y a la cuvée du roi et de l'évêque, et puis tout en bas, là, il y a la cuvée des moines. Voilà, oui, déjà.
Oui, puis c'est trois terroirs différents.
Trois terroirs différents, tout à fait. Trois terroirs différents. Une hiérarchie dans le terroir. Ouais. Voilà, ça c'est. Vous voyez, tout ça, ça fait que on se dit ah, oh, c'est mythique, ça, c'est incroyable.
Alors, il y a tout
grand cru a derrière lui des histoires fantastiques, des histoires de famille. Je citerai par exemple deux noms, le nom de La Guiche, château d'Arlay, côte de Jura. Eh bien, ça, il faut savoir que les La Guiche ont le château depuis le XIIe siècle. Et ça n'a jamais changé de famille. Et le comte Renaud de La Guiche est le successeur de 8 siècles ou 9 siècles de tradition, de sélection de cépages, etc. Vous voyez on peut citer les... je suis désolé. On peut citer, par exemple, en Toscane, la famille Ricazzoli. Dans les Chianti,
oui, ou Antinori aussi, oui.
Ou Antinori, mais eux au château Castillo di Boglio, oui, ça, château de Castillo di Boglio, oui,
c'est marqué pas. Là.
Voilà, c'est marqué. Oui, voilà. Oui, oui. Eh bien, ils sont donc c'est, la famille est là depuis le XIe siècle, et c'est eux qui ont fait, qui ont créé de toutes pièces le Chianti. Voilà, donc c'est une famille. Voilà, une famille.
Est-ce que automatiquement on peut dire que par malheur pour le consommateur, à vin mythique correspond un prix mythique ?
Alors, je vais vous faire de la peine.
Oui, voilà, c'était une mauvaise question.
Voilà, je vais vous faire de la peine. Vous savez que il y a un site qui s'appelle Wine Searcher, qui est un site anglais, qui répertorie 3500 cavistes dans le monde, qui n'inclut pas dans ces statistiques, évidemment, les ventes aux enchères, où il n'y a pas la différence des millésimes, c'est-à-dire que c'est tout millésime confondu. Et donc, tous les ans, il établit le palmarès des 50 vins les plus chers du monde. Bon, 50 vins les plus chers du monde, on pourrait croire que dans les 50 vins les plus chers du monde, on y retrouve nos 40 crus mythiques. Bah, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que les vins les plus chers du monde ne sont pas automatiquement les crus mythiques. Dans les 50 vins les plus chers du monde, il y a 3 Bordeaux.
Absolument. Alors, peux le dire d'ailleurs, ce n'est pas un secret. C'est donc Pétrus, Château Lepin.
Pétrus, à 12e place. 12e place.
Autre. Oui, de toute façon, dans les 10 premiers, il y a 8 vins de Bourgogne et 2 vins allemands. Voilà. Les fameux vins de glace de la vallée de la Moselle et de la vallée de Jura.
Si on veut être...
Et après, voilà. Je ne veux pas vous interrompre. Château Pétrus en 12e, Château Lepin, qui est le petit pommel juste à côté, en 16e place. Et Lafitte, si je ne m'abuse, 45e.
Oui, 45e, mais inexistant.
Il n'y a que 3 Bordeaux.
Bah, inexistant.
Que
3 Bordeaux. Il faut savoir, par exemple, pour vous dire l'emprise qu'a depuis une dizaine d'années la Bourgogne, c'est que sur ces 50 vins les plus chers du monde, il y a 37 Bourgognes, dont effectivement le premier, avec un vigneron, lui, il est mythique, il est mort en 2006, c'est Henri Jaillet.
Oui.
Voilà. Oui. Et lui produit certainement les vins les plus chers du monde, les plus appréciés. Oui. Et c'est lui qui a renoué, qui a redonné à la Bourgogne l'envie de faire des vins de terroir, de climat, de lieu. C'est-à-dire que dans les 11 vins les plus chers du monde, eh bien, il y a 4 vins d'Henri Jaillet, dont le premier, cette année, puisque l'année dernière, c'était le Crop Parentoux, qui est un Vosne Romanée. Cette année, c'est un Richebourg.
C'est un Richebourg. Voilà. Alors, Romanée-Conti, enfin...
En deuxième position, c'est des voisins, c'est des Vosne Romanée.
Il faut dire que ce sont des vins qui sont... en très petite quantité, c'est quelques milliers, quelques centaines de bouteilles par rapport aux grands crus de Bordeaux qui, quelquefois, produisent par an 200 ou 300 000 bouteilles. Là, nous sommes sur du jardinage, on peut dire quelque chose d'infiniment petit.
C'est les cisterciens, c'est-à-dire qu'ils sont habitués. Il faut savoir qu'en Bourgogne, il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie est évidente. C'est-à-dire que en haut, c'est mauvais. En bas, c'est mauvais. Les grands crus se trouvent au pied de la pente.
Pied de côte, oui.
En pied de côte. Ouais. C'est le ventre de la colline. C'est le ventre de la montagne, voilà, ou la montagne ou de la colline, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc il n'y a pas de mystère. On trouvera les grands crus à cet endroit-là.
Alors venons-en, si vous voulez bien, François Colombet, à quelque chose qui m'a tout à fait passionné dans votre livre. Nous sommes toujours dans les vins français. On va passer tout à l'heure aux grands étrangers. Parmi ces vins mythiques, il y en a un qui, je pense, est quand même moins connu que d'autres, qui est celui qui est produit par l'abbaye de Lérins, dans les îles qui sont, vous savez, au large de Cannes, en Méditerranée. Et ce sont d'ailleurs les îles de Lérins. Vous êtes un spécialiste, vous, des abbayes, un spécialiste des cathédrales, vous avez beaucoup écrit là-dessus. Ces moines de l'abbaye de Lérins, qui sont, je crois, qu'une communauté assez importante, j'aimerais que vous nous en disiez un mot. On ne connaît pas forcément toujours ces vins qui sont chers et qui sont produits sur une toute petite île, donc au large de la Côte d'Azur, en quelque sorte. Enfin, de la Côte Varoise.
Il faut imaginer qu'on est un petit coin du paradis. Il faut imaginer que c'est l'endroit où le mythique rencontre le mystique. Sachant que dans les îles de Lérins, l'abbaye occupe la plus petite île, l'île Saint-Honorat. C'est 35 hectares de terre. Donc il y a un fort. L'époque où on se défendait contre les Génois et contre les pirates, les arabesques arabes, etc. Et cette abbaye est une communauté de cisterciens, pas les cisterciens de Cîteaux, malheureusement, c'est une branche dissidente de l'Immaculée Conception.
Dissidente, oui.
Ah bon. Voilà. Et c'est une très très belle communauté d'une vingtaine de moines de toutes nationalités. Formidable, hein. C'est incroyable quand on va là-bas, des Polonais, des Américains, des Allemands, etc. Et donc, s'est posé la question il y a une vingtaine d'années de se dire, mais comment va-t-on vivre ? On va accueillir les pèlerins, les retraités qui viennent passer une journée, etc. Mais alors, ils se sont creusés la tête et ils se sont dit, est-ce qu'on va faire de la lavande comme tout le monde ? On va faire du rosé comme ce qu'on fait autour de nous, là, sur le continent ? Non, ils se sont dit, ils ont beaucoup prié d'abord. Et puis, ils ont beaucoup prié et le Saint-Esprit les a entendus.
C'est leur job.
Ouais, c'est leur job. Et en la personne d'un moine qui s'est présenté, qui s'appelle Frère Marie Pâques. Hein. Je n'invente pas, c'est vraiment son nom. Hein. Vous l'avez rencontré.
Hein. Non.
Vous l'avez pas rencontré.
Non, je suis allé là, mais je n'ai pas vu. Frère
Marie Pâques, il s'est dit, voilà, c'est quelqu'un c'est un grand vigneron. Il n'avait pas les connaissances œnologiques, mais il avait l'idée.
C'est comme le Dom Pérignon.
Voilà, absolument. Voilà, il s'est dit, moi, je vais faire autre chose. Il a imposé de planter des cépages qui sont totalement atypiques, donc au terroir qu'il avait. Vous voyez, on est au large de Cannes. On est sur un terroir de garrigue où il y a des pins d'Alep, où il y a des eucalyptus. C'est merveilleux d'y aller là-bas. Je ne sais pas quelqu'un y est allé dans l'assistance, mais on prend le bateau. 20 minutes après, on part de Cannes, dans le brouhaha de Cannes, on arrive dans le calme le plus absolu. Eh bien, au cœur de cette île de 35 hectares, il y a effectivement le secret des moines, c'est-à-dire 8 hectares de vignobles. Et là, vous avez tous les plus grands cépages qui ont été plantés, à l'encontre de tout le dogmatisme de l'INAO. c'est-à-dire que vous avez du pinot noir, vous avez du Mourvèdre, vous avez du Chardonnay. Le Chardonnay, vous rendez compte. Bon, la Tour, je sais, l'a implanté en Ardèche et en Provence, mais ça, c'est peut-être pas aussi concluant que les moines. Vous avez de la Syrah. Eh bien, ces vins, les cuvées de ces vins, en dégustation à l'aveugle, arrivent en première, deuxième position. C'est-à-dire que quand le Chardonnay est goûté et dégusté avec des très grands Bourgognes, eh bien, généralement, ils arrivent en premier ou en deuxième position. Les Syrah, ben, ils ont gagné le meilleur Syrah de l'année, je ne sais plus quelle année, voilà.
Oui, qui était en concurrence avec les Australiens,
voilà.
Vallée du Rhône et puis, surtout,
ces vins donc, sont excessivement chers. Le Pinot noir...
C'est-à-dire
C'est autour de... C'est-à-dire que la bouteille, la bouteille ce n'est pas un prix de moine, c'est-à-dire c'est autour de 90, une centaine d'euros. Quoi. Bon, il faut gagner, il faut bien vivre sa vie. Voilà. Et le pinot noir, notamment, eh bien, il faut 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire qu'il faut faire la queue sur une liste avant de se faire livrer son pinot noir. Mais il faut dire également, c'est que 2010, réunion du G20 organisée par Sarkozy, donc à Nice, eh bien, le vin qui était servi, c'était les cuvées des moines. Voilà. Donc, c'est la seule île, d'après ce que je peux connaître, qui est c'est une île monachique, c'est-à-dire une île occupée par les moines, qui en ont la possession sans en avoir la possession du littoral, parce que, comme chacun sait, le littoral appartient au bien public. Voilà.
Il y a, vous le soulignez dans votre livre, un cépage un petit peu mythique, tout de même, qu'on connaît mal, en tout cas par chez nous, et mal dans une grande partie de la France, qui est connu sur la côte varoise, la Bandol, qui est connu donc dans cette île, qui s'appelle le Mourvèdre. Oui. C'est un cépage qui fait des vins rouges absolument extraordinaires, qui durent effectivement très longtemps. Il y en a pas mal dans le Languedoc aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cépage mythique? Il est rare.
Alors, c'est un cépage mythique, c'est-à-dire qu'il a été sublimé par Bandol.
Voilà.
Sublimé par Bandol, parce que en fait, c'est un cépage qui est, il est rare, il est mythique, parce que il demande des conditions très particulières et il demande des rastanques, c'est-à-dire qu'il demande des petites terrasses pour être planté. Donc, c'est pas évident de trouver ce genre de. Il demande des vins marins. Des vents marins. Et il demande, par exemple, les moines, les Reims étaient le terroir idéal pour le Mourvèdre. Il est difficilement exportable. S'il est exportable, il est exporté en Afrique du Sud. Voilà. Il est exporté en Afrique du Sud, mais c'est un des grands cépages. On pourrait en parler comme le Viognier qui a été redécouvert il y a une vingtaine d'années et qui est un vin sublime,
et extraordinaire, qui restera finalement,
et qui restera. et qui a été sauvé. Alors qui a été sauvé, pour vous dire maintenant la portée internationale de ces vignobles et ces cépages, était sauvé par l'Australie. C'est-à-dire que des Australiens sont arrivés, ils sont tombés alors qu'il en restait 2 hectares à Condrieu, qui est le lieu de naissance de ce cépage, qui est omniprésent évidemment au Château Grillet, puisque c'est son unique cépage. Et les Australiens se sont dit, tiens, on va essayer en Australie. Et il est devenu le grand cépage de référence en Australie. Voilà.
Montons un peu plus vers le nord. Vous parlez de la fameuse montagne de Corton, qui se trouve en Bourgogne, où il y a à la fois des rouges sous l'appellation Corton et des blancs sous l'appellation bien connue Corton Charlemagne. Ce lieu est connu aussi parce qu'il y a cette espèce de colline peu inspirée, comme on disait autrefois. Est-ce que cela veut dire que à cru mythique ou à vignoble mythique, il y a une sorte de paysage un peu sublime, un peu personnalisé, quelque chose de très beau, qui ajoute encore la dimension, ou qui crée cette dimension mythique
Ce qu'on peut dire...
Parce qu'ici, il y a des grands vins, Pétrus n'a pas un paysage mythique.
Pétrus n'a pas un paysage mythique, non. Tout au moins, c'est le sol qui est mythique.
Oui.
Corton, d'une part, c'est aussi inspiré peut-être que la colline de Vézelay. On en parlait tout à l'heure. Par contre, c'est un lieu mythique parce que d'une part, il a une configuration très particulière puisque il ressemble à la tête d'un moine avec la tonsure.
C'est ça.
Hein, voilà. Donc c'est incroyable. Et puis.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'arbre au sommet, c'est ça.
Voilà, il n'y a pas d'arbre au sommet. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est quand même un vignoble qui était déjà très prospère du temps de Charlemagne, puisque on dit que le Corton Charlemagne. Soyons précis. Corton rouge, Corton Charlemagne blanc. Ça, il faut se mettre ça dans la tête. Sinon, on ne comprend pas l'extrême complexité des vignobles des vignobles bourguignons. Donc, Corton rouge, Corton Charlemagne blanc. Et donc, l'Auguste empereur, lui, à la fin de sa vie, il avait la tremblotte. Et on s'est dit, il buvait du Corton rouge. Et lorsqu'il le buvait, évidemment, il tachait sa barbe.
C'était fleuri pour cette raison, vous croyez?
Je ne sais pas si elle était fleurie. Et on lui a dit, bon, pour plus qu'il y ait cette infamité sur le personnage impérial, on va lui planter un cépage. On va lui planter, je ne sais pas si c'est du chardonnay à l'époque, je ne sais pas. En tout cas, c'est du vin blanc, de façon à ce qu'il ne puisse plus se tâcher. Voilà, c'est l'histoire. Donc, il y a toujours un corton Charlemagne, et puis il y a un petit embryon d'un climat qui reste encore, qui s'appelle le Charlemagne, et effectivement, qui est le lieu le plus mythique, puisque c'est vraiment le climat de l'empereur. Voilà.
Alors, nous avons beaucoup parlé donc des vins français. On pourrait en parler encore longtemps, puisqu'il y a beaucoup de vins mythiques, beaucoup de crus mythiques, bien sûr, dans notre pays. Mais comme vous savez, on fait du vin sur tous les continents de cette planète depuis fort longtemps. On pourrait parler des grands vins espagnols, Vega Sicilia, que vous citez. Je voudrais qu'on s'arrête sur, rapidement peut-être, mais d'un mot, sur un vin un peu étonnant tout de même, très ancien, qui est le vin hongrois. Enfin, il y a beaucoup de vignobles en Hongrie, notamment des vins rouges, du côté du lac Balaton, dans le sud du pays, mais dans le nord, avec un climat très ride, il y a le fameux Tokaj, qui est un vin blanc sucré, très, très moelleux, très liquoreux, qui est fait avec, d'ailleurs, d'une manière technique, qui n'a rien à voir avec le Sauternes chez nous, mais qui, à l'arrivée, représente un peu la même chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est un vin qui était déjà apprécié par nos rois, enfin, qui a une très ancienne réputation.
C'est le roi des vins, le vin des rois.
Très ancien.
Alors, ce que je veux dire, déjà, c'est la Hongrie. Il faut imaginer qu'on est à l'extrême nord-est de la Hongrie, c'est-à-dire qu'on est à la frontière de de l'Ukraine et on est à la frontière de la Slovaquie. Vous voyez, on est voilà. Et on est sur les pans des Carpates. Voilà. Donc c'est un endroit déjà. C'est pas extraordinairement beau, mais par contre, on est touché lorsqu'on visite le pays, la région de Tokaj. On dit Tokaj, parce que ça représente en quelque sorte un pan de l'histoire européenne. D'abord, le Tokaj est certainement le seul vin qui est nommé dans un hymne national. L'hymne national hongrois mentionne Tokaj. Et puis, il faut dire que il a cette réputation d'être le vin mythique le plus extraordinaire du monde, dans le sens où il est né dans une terre qui était une terre où les Ottomans venait régulièrement chasser le chrétien. Je ne sais pas, on peut dire ça sans être offusqué, quoi que ce soit. Où on se réfugiait dans les caves, mais les caves où on partageait son espace vital avec les tonneaux de Tokaj. Voilà, donc vous voyez, donc il y a cette espèce de dimension historique et dimension vineuse.
Montagne est creusée.
La montagne est creusée, voilà. D'ailleurs, le sol est. Une étude géologique du sol montre des choses extraordinaires, des micas, le leus qui est apporté par les vents réguliers, etc. Il fait très très froid l'hiver et très chaud l'été. C'est là. Et alors, le Tokaj, c'est un vin donc, qui est récolté. À surmaturité, c'est-à-dire botrytisé, c'est-à-dire
des raisins confits, quoi.
Dans une confit, donc, et il est donc récolté, il est pressé, et ça donne du mou qu'on récolte dans des seaux qu'on appelle les putenios, c'est-à-dire qui contiennent à peu près 16 kilos de mou pressé, qu'on va rajouter donc à des mous qui ont été pressés plus tôt, mais qui donnent que du liquide. Là, on va mélanger le mou solide avec le mou liquide. Et plus il y aura de seaux, des putonios, dans le Tokaj Azu, plus ce Tokaj Azu aura
de la
richesse, du sucre, etc. Donc ça va jusqu'à 6. Au-delà, c'est le Tokaj Essentia, Azu Essentia, qui est peut-être le vin liquoreux le plus extraordinaire au monde.
Oui, c'est une vraie liqueur.
C'est de la vraie liqueur. C'est-à-dire que on dit que lorsque vous mettez un petit verre de parce que c'est évidemment c'est dans des bouteilles de 50 centilitres coûte une fortune l'Essentia on met un verre d'Essentia donc dans une pièce et bien l'odeur reste pendant plusieurs mois pour vous dire la richesse aromatique de ce type de vin. Voilà.
Alors, c'est toujours aussi mythique, ça l'était déjà du temps des rois et des tsars, et c'est toujours aussi mythique. Alors, à tel point que vous dites qu'il y a beaucoup d'occidentaux, enfin de gens d'Europe d'occidentale, qui ont investi là-bas pour acheter des domaines, des Français, des Espagnols.
Ben, c'est-à-dire qu'on est passé, la glaciation soviétique, enfin tout au moins les modes culturels soviétiques ont été qu'on faisait du rendement et non pas de la qualité. Et donc lorsque le pays s'est libéré du joug communiste, eh bien, l'Europe a investi le vignoble. Donc, il y avait des quotas, mais pratiquement tous les grands acteurs, notamment bordelais ou Champagne, ont investi la région de Tokaj. Donc on trouve maintenant AXA a investi beaucoup de Bordelais, etc. Donc c'est devenu en quelque sorte une terre d'abondance pour nous qui avons fait le tour de nos vignobles. C'est-à-dire qu'on est dans une terre à conquérir et on est dans un marché qui est extraordinaire parce qu'on a le mythe du Tokaj. Vous savez, il fallait savoir, c'est que par exemple, le pape se réservait son quota, la maison de Habsbourg également, et le tsar de Russie avait tellement peur qu'on lui vole son précieux quota qu'il le faisait escorter jusqu'à Moscou par une caserne, par des cavaliers cosaques. Voilà pour vous dire.
Alors on en vient aussi à un autre vignoble qui vous est cher, dont vous parlez longuement avec intérêt bien sûr, qui est celui de l'Afrique du Sud, qu'on appelle peut-être à tort du Nouveau Monde, parce qu'en réalité l'Afrique du Sud n'est pas un Nouveau Monde, il est relativement Nouveau Monde évidemment par rapport au vin, puisque ce sont les différents colonies d'Européens qui sont arrivés dans ce pays qui ont cultivé la vigne. Visiblement, vous aimez ces vins, vous nous parlez... Alors, il y a quelques lieux mythiques, Stellenbosch, Constantia, Franschhoek, etc. Franschhoek, la vallée de Français, en réalité.
Oui, le coin des Français, oui.
Oui, c'est ça, comme les Hollandais, etc. Ouais. Et etc. Alors, pourquoi... Alors, le lieu, évidemment, le Cap, tout ça, c'est un lieu presque... Le Cap de Bonne-Espérance, un lieu un peu mythique par lui-même, avec ces très beaux vignobles qui sont sur ces collines, presque au pied des montagnes. Dites-nous un mot, qu'est-ce que ça a de mythique, finalement? Les vins ne sont pas quand même d'une qualité telle qu'on peut les comparer au Grand Bordeaux, au Grand Bourgogne.
Alors, d'abord, je voulais faire un petit aparté, quand même, puisque la journée s'y prête. Tout le monde sait que les funérailles de Nelson Mandela ont eu lieu donc à Soweto, donc le Soccer Stadium.
Tout à l'heure.
Soweto, ouais, tout à l'heure ou maintenant, je ne sais plus. Donc Soweto, c'est la banlieue de Pretoria. Voilà, banlieue de Pretoria. Alors là, il faut se déplacer. Les distances sont énormes. Il faut se déplacer à 3500 km au sud-ouest. Et on tombe dans la région du Cap, ce que les Sud-Africains appellent le Coastal Region. On tombe sur un endroit, alors là, je peux vous dire, à couper le souffle, c'est-à-dire le paysage extraordinaire. On a ces montagnes, on a le Simonsberg, on a la montagne de la Table Mountain,
Table
Mountains, et qui se... Voilà. Qui se jette dans la mer. Et la région du Cap, c'est une espèce de langue de terre qui va faire la séparation. D'un côté, vous avez l'Atlantique. De l'autre, vous avez la Méditerranée.
Non, non.
De l'autre, vous avez, excusez-moi, l'océan Indien. Voilà,
excusez-moi. Pardon.
Alors, l'océan Indien. Et donc, l'endroit est fait pour la vigne. Climat méditerranéen. Alors, l'été, c'est évidemment, c'est de novembre à mai. Mais les étés sont chauds. Mais le gros avantage, c'est pour ça que la vigne s'y est implantée, c'est qu'il y a un vent qui... Là, voilà, vous voyez, je commence à... Je vais prendre un verre d'eau. donc, un vent qui est extraordinaire, qui vient de l'Antarctique, et qui s'appelle, d'ailleurs, le Cap Doctor, et qui va assainir le vignoble. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de maladies comme l'oïdium, La vigne est assainie par ce vent et il n'y a pas de mauvaises années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais millésimes. Dans le Bordelais, il y en a de moins en moins, en Bourgogne, il y en a encore, mais la région du Cap, il n'y a pas de mauvais millésimes. Hein. Alors, c'est le berceau de la naissance de la viticulture sud-africaine. Les Hollandais, si Vasco de Gama y est arrivé au XVe siècle, les Hollandais s'y sont installés au XVIe et au XVIIe siècle. La naissance. La première vendange a eu lieu donc à moitié du XVIIe siècle. Et le vin dont on parle, qui est le vin le plus mythique qu'il y ait au monde, c'est le vin de Constance. Je ne sais pas si vous connaissez le vin de Constance. C'est un vin qui est produit donc entre le Cap, c'est-à-dire qu'on est à 20 minutes de la capitale judiciaire de l'Afrique du Sud. On est à 20 minutes, c'est-à-dire qu'on prend la route du vignoble. On est donc entre le Cap et le Cap Point, qui est donc le Cap de Bonne-Espérance. La vallée, le vignoble est appuyé sur la montagne de la Table. Vous avez l'influence de l'océan Indien qui est de l'autre côté. Et l'endroit est l'endroit idéal pour planter des vignes. D'ailleurs, les immigrants hollandais ne se sont pas trompés. Le premier vignoble qui est planté, donc, c'était à Constantia. Et ce vignoble était tellement extraordinaire. Lorsque les colons, les immigrants, ont envoyé les premières bouteilles à Batavia pour une note de dégustation, ils ont dit « Attendez, c'est extraordinaire, mais il n'y a pas suffisamment de bouteilles. C'est-à-dire qu'il faut en faire plus ». Voilà, mais heureusement, les vignerons de l'époque se sont contentés de travailler sur quelques hectares et pour fournir effectivement une qualité extraordinaire, puisque c'est des vins liquoreux, et puis pour également satisfaire quand même quelques personnes. Alors, il faut savoir qu'au 19e siècle, au 18e siècle d'abord, il y a eu un homme extraordinaire qui s'occupait du vignoble Constantia. Il a fait des inventions formidables, c'est-à-dire qu'il a assaini ses cuves avec l'eau bouillante. Il était à la pointe. Là aussi, vignoble mythique, ça veut dire aussi qu'il y a des hommes derrière qui font des inventions, qui ont révolutionné la manière de vinifier ou de cultiver la vigne. Bien là, il est allé jusqu'à supprimer les moustiques des vignobles, parce que malheureusement, à l'époque, les esclaves étaient corvéables. À Merci. Donc, il mettait à l'époque où il fallait faire attention au vignoble, au moment des vendanges, mais il mettait des armées d'esclaves qui chassaient les moustiques des rangs des vignes. Voilà. Donc, résultat, le vin était tellement exceptionnel, c'est que il a été le vin préféré des hommes politiques. Baudelaire en était fou, Dickens en faisait livrer directement chez lui en toute petite quantité parce qu'il y avait les quantités étaient contingentées. Il faut dire également, c'est que on sait tous que Napoléon était un grand amateur de Chambertin.
D'en faire venir
de Chambertin. De Chambertin. Il était. Mais qui savait que le fidèle Lascaz, lui, a fait que l'empereur à Sainte-Hélène puisse boire une bouteille. Attends, les bouteilles, c'était 50 centilitres. Hein, je suis désolé, c'est pas 75. Puisse boire une bouteille par jour du vin de Constance. Vous voyez le mythe déjà que pouvait représenter ce type de vin. Bon, c'était contrairement aux dieux, c'est que les vignobles mythiques sont mortels ou semi-mortels, puisque le vin de Constance est un vin fantomatique. Il a disparu après les attaques du phylloxéra, et il a pu renaître en 1980, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années, par quelqu'un qui avait les moyens, la famille Juste, qui ont eu les moyens de replanter. Donc, ils ont fait venir des clones des cépages qui avaient été plantés du temps des Hollandais, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Ils sont fait venir des clones Des clones de Muscat, de Frontignan.
Oui, puis ils ont créé le fameux voilà. Pilotage.
Ah non, mais ça, c'était autre chose. Pas à Constantia.
Ah non, pas à Constantia.
Et donc, ils ont fait revenir des clones des cépages d'origine, qui étaient inventés deux siècles auparavant. Et premier millésime, 1987. Mais ce qu'on attend, on ne sait pas s'il va devenir réellement mythique, puisque on sait pertinemment, c'est que ce vin ne se déguste qu'après 50 ans. Donc 87. Donc il faut attendre. Il faut attendre quelques années encore pour savoir si vraiment on a réussi. La famille Joust a réussi à faire tout au moins le vin mythique de ses ancêtres. Voilà. Oui.
Ça veut bien dire quelque part que quand même, ça se situe dans le temps.
Ça se situe tous dans le temps.
Je voulais conclure simplement en vous disant que ce livre est tout à fait accessible, je veux dire, à tout le monde et à toutes les lectures. Comme je peux vous le montrer, il y a d'aussi jolies photos qu'il y a des cartes fort intéressantes et très très bien faites. C'est même, à mon avis, un livre qui vaut autant par son texte, bien sûr, que par ses cartes. Et que donc, en matière, pour rêver un verre à la main... Je crois qu'on peut trouver difficilement mieux. Merci en tout cas de votre attention.